France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, réalisé par Perret Legras avec Jean-Guilain Meige à la technique et Avril Ventura à la programmation, entre autres. Aujourd'hui, comment on fait les bébés ? Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux conditions sociales, économiques et morales de la parentalité. Quand la condition parentale est interrogée par les sciences sociales, eh bien, c'est passionnant, c'est l'objet du livre « Enfanter » sous titre « Natalité, démographie et politique publique ». L'économiste Claudia Sénic, qui l'a dirigé, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors oui, comment on fait des enfants? Comment on décide d'en faire? Dans quelles conditions on les met au monde? Nous en parlerons en particulier avec vous, Clélia Gasquet-Blanchard. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous questionnerons les conditions de l'éducation. Faire famille, fait des individus, des sujets sociaux et politiques différents. Devenir parent, c'est vivre d'une autre façon en tant que femme et en tant qu'homme, ça, on va en parler. Bénéficier d'aide ou non et de politiques publiques spécifiques. Répondre aussi à un ensemble de normes portées par toutes la société, la parentalité, ça ne concerne pas que les parents. Dans cette émission, nous parlons de la manière dont cette parentalité se transforme dans nos sociétés, sous le coup peut-être de l'économie néolibérale et de la manière dont l'autorité parentale est accompagnée par les États, parfois remise en cause. Enfin, nous éclairerons le concept de pessimisme parental, une spécialité bien française, d'après le sociologue Romain Delesse. Clélia Gasquet-Blanchard, vous êtes maîtresse de conférences HDR en géographie à l'École des hautes études en santé publique, parce que mettre au monde des enfants, ben, ça concerne le monde de la santé. Je vais dire tout votre titre. Attachée au laboratoire CNRS Espace et Société de l'Université de Rennes 2, directrice du réseau régional de santé Solipam Solidarité Paris Maman. Et ça aussi, c'est bien qu'on le précise. Et vous êtes l'autrice d'un livre à paraître en 2025, aux éditions La Fabrique, Faire naître. Voilà qui résonne bien avec ce livre dont le titre est Enfanté, qui lui est publié à La Découverte, qui est apparu le 3 avril 2025. Claudia Sénic, je vous redis bonsoir.
Bonsoir.
Et je précise que vous êtes professeure à Sorbonne Université, à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être au Centre pour la recherche économique et ses applications. J'arrive pas à prononcer l'acronyme, il est tellement compliqué.
C'est prima.
Ouais, merci. Et il y a beaucoup d'auteurs, on va en entendre certains dans les différents chapitres de ce livre. On peut déjà partir d'un constat assez simple auquel on s'est intéressé en France. Dans 2/3 des pays du monde, la fécondité est inférieure au taux de reproduction de la population. Parce que la parentalité est choisie, de plus en plus choisie. Nous, ça ne nous paraît pas nouveau, mais ça, c'est un fait mondial, Claudia Sénic.
Oui, exactement. Donc la population mondiale ne se réduit pas encore, mais on estime qu'en 2030, ça sera le cas. Les gens choisissent de faire des enfants. Alors autrefois, avec la mortalité infantile, l'espérance de vie, etc., il fallait faire 6 enfants pour que la population se reproduise d'un pays. Aujourd'hui, évidemment, avec l'hygiène, etc., c'est beaucoup moins. Et puis, les conditions de vie ont changé. Les femmes travaillent. Ça tourne beaucoup autour des femmes, hein, quand même, ces questions. Les femmes travaillent. Elles commencent plus tard à faire des enfants, donc elles en ont moins mécaniquement. Elles se demandent comment ça va se passer avec leur conjoint, enfin, avec le père, si elles vivent avec lui. Elles ont parfois des difficultés, incertitudes sur les revenus, sur le logement, etc. Et puis, ça, c'est au niveau individuel, donc les contraintes, le désir d'enfant. Puis après, il y a au niveau social un peu des normes de parentalité, comme vous dites, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Et il y a un des chapitres qui montre, de Melki, qui montre que une fois que les gens se sont habitués à faire moins d'enfants, qu'ils anticipent que ils vont en avoir un, comme en Chine, ou peut-être 2, comme en France, c'est très dur de revenir en arrière. Et il montre comment la France, qui a été précurseur en matière de transition démographique au XVIIIe siècle, un siècle avant tout le monde, a diffusé en toute l'Europe, parce que la France était un pays d'accueil, et comment les gens qui venaient travailler en France et qui retournaient dans leur pays occasionnellement, transmettaient, diffusaient ces normes de faible natalité.
Donc, de petites familles, nous, en France, on croit qu'on a une politique, et on l'a, une politique nataliste, et qu'on est un pays qui fait beaucoup d'enfants.
Mais c'est vrai, en fait.
Et c'est vrai.
La France
mais historiquement, On a commencé plutôt à en faire beaucoup moins. Et ça, c'est très important dans notre conception de la famille et de l'éducation.
On a commencé beaucoup plus tôt à en faire moins. On a diffusé ça, mais après, on a un patchwork de politiques natalistes, de soutien à la fois financier aux familles, de soutien au mode de garde, de faire en sorte que les femmes puissent travailler et avoir des enfants, de dispositions fiscales, etc. Des politiques de droite, de gauche, conservatrices, progressistes, de toutes sortes. En fait, tout le monde est d'accord en fait là-dessus, qui fait que en fait, continuellement, comme une sorte de paquebot comme ça, la France a conservé une natalité assez élevée, la plus élevée d'Europe actuellement. Par le biais de cette mosaïque de politique finalement nataliste inspirée par divers objectifs, parfois contradictoires même.
Ce qui ne suffit pas à satisfaire les parents français, mais ça, on va y revenir, puisque là, pour commencer cette émission, on parle du désir d'enfant. Alors, est-ce qu'il y a moins de désir d'enfant? Est-ce que c'est plutôt un désir plus construit? En même temps, ça reste un petit peu mystérieux, incertain. On peut peut-être le dire avec vous, Clélia Gasquet-Blanchard.
Oui, alors cette question du... Enfin, je vous rejoins tout à fait sur le recul de l'âge à la maternité, c'est un fait établi, et en même temps, il relève aussi des normes acceptables pour faire un enfant qui sont de plus en plus contraintes et qui ont participé aussi au recul de l'âge à la maternité.
Normes économiques ?
Normes politiques publiques. Dans les politiques, malgré toutes ces politiques natalistes, ces normes sont quand même de plus en plus contraintes, notamment avec le travail des femmes, qui s'est beaucoup développé en France par rapport à d'autres pays européens, où, par exemple, en Italie, le travail des femmes est beaucoup moins diffusé dans la société qu'en France. Mais ça a participé aussi à ce que il y ait un recul, enfin, je pense qu'on se rejoint là-dessus, hein, qu'il y ait un recul de l'âge à une première maternité.
Et donc, on peut le donner d'ailleurs, cet âge, la première maternité, en moyenne, c'est, ou alors la maternité en moyenne, je ne sais pas, peut-être vous allez me corriger, c'est 31 ans aujourd'hui.
Donc, mais l'âge des premiers enfants, c'est...
Mais l'âge des premiers enfants, c'est un peu avant.
Justement, sur la France...
Mais l'âge moyen des mères, c'est 31 ans.
Parce que ça intéresse les auditeurs qui parlent français. Sur la France est un des rares pays où les femmes font des enfants assez tôt, parce que justement, elles peuvent rapidement retourner au travail, en fait. Donc, elles peuvent à la fois travailler et être mère, ce qui est, comme vous l'avez dit, n'est pas le cas en Italie, ni en Allemagne, par exemple. En Allemagne, il n'y a pas de cantine, donc...
Et sensiblement plus basse.
Il faut rentrer à la maison pour faire le déjeuner. Il faut garder les enfants, sinon on est une mère corbeau.
C'est pour l'Allemagne.
Alors que voilà, cette histoire de conciliation maternité, travail pour les femmes, c'est très important.
Pour nous, on revient à vous, Clélia Gasquet-Blanchard.
Oui, alors aussi pour cette question du désir, en fait, le désir de faire un enfant, il est aussi finalement très normé. Et même si on a l'impression que c'est un désir extrêmement singulier, on a des normes sociales très fortes qui nous disent qu'il va falloir en effet faire... On a fini ses études, on s'est marié, et il va falloir absolument faire un enfant dans l'année qui suit le mariage, dans le cadre d'une famille hétérosexuelle de classe moyenne. Et alors même que avec cette contrainte-là, la possibilité de pouvoir décider ou non d'une grossesse, elle est aussi pleine d'inconnus. Et le fait que ça devienne une question des politiques publiques, elle vient pénétrer un désir qui est aussi un désir inconscient et qui va participer à ce que, bien qu'on pense qu'il va s'agir d'un désir singulier ou d'un couple, ou d'une, qui s'inscrit dans une famille, dans une transmission, ces désirs sont en fait extrêmement normés par toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui.
Donc on construit son choix de faire des enfants en fonction de tout un tas de normes qui circulent autour de nous. Alors après, on en fait un peu moins aujourd'hui, donc ça aussi, ça interroge. On va y venir, mais aussi, comment on décide où on arrive à décider de les mettre au monde en France. Et vous avez travaillé sur la question du choix de la maternité, Clélia Gasquet-Blanchard, un choix qui peut s'avérer être un vrai choix pour certains, pour d'autres femmes, non. Ça dépend de où on vit, de son milieu social. Il y a des femmes très privilégiées qui choisissent certaines maternités avec un certain type de services, d'autres qui vont se retrouver dans des hôpitaux publics très loin de chez elles et aider chez elles, parce que c'est les femmes qui accouchent, mais évidemment les familles entières sont concernées. Bref, que nous dit cette histoire du choix de l'endroit où on met son enfant au monde ?
Alors, il y a la question donc du lieu, et là, c'est ce qui est intéressant pour la géographie aussi, c'est le lieu de la maternité, et la maternité est devenue une institution, puisque maintenant, c'est le lieu où les femmes accouchent majoritairement. Jusqu'au XVIIIe siècle, elles accouchaient préférentiellement au domicile, mais aussi en raison de l'organisation de la société française à cette époque. Et il y a une institutionnalisation du lieu où elles accouchent qui va s'opérer, qui va se faire par une alliance de la médecine et du pouvoir politique. Donc ça a été très bien montré par dans un ouvrage qui s'appelle Sociologie de la naissance par Philippe Charrier et Gaëlle Clavandier et les historiennes de la naissance aussi, parce que c'est majoritairement des historiennes. Et dans les années 50 va s'opérer ce qu'on appelle le grand déménagement, c'est-à-dire que les femmes passent d'un accouchement majoritairement à domicile dans une maternité. Et elles ont adhéré, malgré ce que ça a impliqué aussi, du contrôle sur leur corps, du fait qu'on contrôle par des politiques très natalistes ces naissances. Et ce qui va s'opérer ensuite, c'est donc ces accouchements privilégiés dans les maternités.
Finissez votre phrase, je vais poser ma question.
Et alors qu'on les a fait venir dans les maternités, aujourd'hui, on est dans un contexte avec les fermetures des petites maternités notamment, et l'avènement de grandes maternités qu'on a appelées des usines à bébés, et avec par ailleurs la mise à jour des violences gynécologiques et obstétricales, le fait que de plus en plus, les femmes sont sorties des maternités assez tôt, et le temps où elles restent dans l'institution de la maternité a diminué de manière très significative.
Ma grand-mère, 21 jours, moi, 2 jours.
Votre grand-mère, 8 jours. 21 jours.
Oui,
votre
dans
mère,
années...
8 jours peut-être. Et vous, 2 et demi.
Non, oui. Enfin, c'est moi quand j'ai accouché, quand je suis née. Oui. Alors, ce choix, en fait, n'en serait pas un. On pourrait se dire, accoucher dans une maternité, c'est quand même s'assurer le recours de médecins en cas de problème. Et c'est une sécurité. De nombreuses mères font ce choix en pensant que c'en est un, du point de vue de cette sécurité périnatale.
Alors, la question de ces politiques, elles ont été aussi pensées autour de la sécurisation de la naissance, qui a permis la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ça, c'est indéniable. Par contre, ce que ça a impliqué aussi, c'est un contrôle de plus en plus grand sur le corps des femmes et le malaise qui suit derrière, et notamment la dépression du postpartum, les violences gynécologiques et obstétricales, comme je vous ai dit, et avec, du coup, des préférences du choix des mères sur certains types de maternité. Et on voit s'opérer, en fait, des distinctions et une médecine à plusieurs vitesses, médecine de classe, on pourrait dire, entre des femmes qui vont avoir le choix de pouvoir choisir une maternité où elles vont penser être en sécurité, mais aussi bien accueillies, coucounées.
Avec une chambre individuelle.
Une chambre individuelle, un chef qui va préparer les repas, ce qui n'est pas le cas à l'hôpital public, des suites parentales où on peut accueillir les grands-parents, versus un hôpital public qui n'a pas les moyens de mettre à disposition ses soins de confort ou soins annexes, alors même que si on regarde les chiffres de l'adresse pour les maternités en 2023, on a beaucoup moins de chances d'être césarisé dans le service public, à même type de technicité de maternité que dans le privé. Et donc les femmes, quand elles pensent faire un choix pour leur propre sécurité, ont plus de risques d'être césarisées dans une maternité privée.
Alors, je fais tout de suite un grand saut vers la question éducative qui m'intéresse toujours dans cette émission. Est-ce que le fait d'aller dans tel ou tel endroit pour accoucher, par exemple un service public, une maternité privée, ça va nous orienter vers tel ou tel type de choix sur, les crèches ? Les écoles, bien sûr, privées ou publiques, et dans notre relation à l'État, aux services publics et peut-être aux politiques publiques qui encadrent l'enfance et l'éducation.
Alors, je dirais que oui. Je dirais qu'il y a quand même un lien. On le voit même dans les professionnels fonctionnaires de l'éducation nationale commencent à mettre leurs enfants dans le privé, certains en tout cas, ou certaines. Et de la même manière, on a des soignants qui décident de se faire soigner dans des hôpitaux privés, alors même qu'ils exercent à l'hôpital public, ce qui pose question, et ce qui pose question aussi sur le fait que on a réussi à faire passer l'idée dans les représentations sociales que le service public ne serait plus fonctionnel, ce qui n'est pas le cas, vu que, en tout cas pour les chiffres de césarienne, on voit bien que les femmes sont moins césarisées dans les maternités publiques. Mais ça veut dire qu'on a réussi à intégrer par la destruction du service public et de politique qui date des années 80.
Donc ça, ce serait un projet libéral et politique ?
À mon sens, c'est un projet libéral et politique que la destruction du service public.
Et en tant que chercheuse, quand vous vous y opposez, est-ce que vous avez un discours de défense du service public qui est politique lui aussi ?
Oui, je pense qu'en tant que chercheuse, dans le service public, je peux pas dire que je fais une recherche de mauvaise qualité. Je pense pas aller sur une radio du service public, je crois. Donc évidemment, j'ai un positionnement qui est peut-être biaisé, mais en même temps, je pense pas que ce soit un biais. Je pense que il y a certains faits qui nous disent bien que ces pratiques distinctives des femmes, et puis il y a quelque chose de l'homogénéité de classe. Les soignants qui vont travailler dans des maternités publiques ont une homogénéité de classe avec les patientes qui vont accoucher. Les soignants qui travaillent dans l'hôpital public n'ont pas forcément d'homogénéité de classe avec les patientes qui accouchent, mais en tout cas, ils ont une valeur de défense du service public.
Alors, dans cette émission, on s'intéresse à comment on fait les bébés. Je crois qu'on a commencé à répondre à cette question. On a aussi parlé de combien on fait de bébés. 663 000 enfants sont nés en France en 2024, c'est un peu moins qu'en 2023, 677 800 en 2024. Donc c'était le chiffre le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945. Je ne vais pas vous faire le détail de tous les chiffres qui baissent, mais je ne suis pas la seule à m'y intéresser. Le président Macron avait décidé d'en parler en janvier 2024 avec une expression qui a beaucoup marqué les esprits.
Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail. La natalité baisse aussi, parce que l'infertilité progresse. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Alors, elle est complètement dingue, cette expression de réarmement démographique. Elle a beaucoup marqué, je le disais. On ne sait pas à quel point elle est contre l'époque ou dans l'époque, mais il y a quelque chose qui résonne avec le livre que vous avez dirigé, Claudia Sénic, Enfanter. C'est cette question d'aide à la procréation, puisque c'est de plus en plus courant. Il y a plusieurs articles qui sont consacrés. Aujourd'hui, c'est ça aussi, les conditions de la parentalité, c'est s'interroger sur comment on aide les parents à le devenir.
Bon, d'abord, réarmement, c'est un mot qui est dans l'air du temps. Enfin, ça l'est devenu encore plus après cette déclaration. C'est intéressant, en réécoutant, il parle de conciliation, encore une fois. Il faut que les femmes puissent travailler, donc elles se mettent plus tard à faire des enfants, comme elles s'y mettent plus tard. Ça, c'est plus difficile de tomber enceinte pour la première fois quand on commence tard. Il parle d'infertilité, ça c'est un problème de santé publique lié à l'agriculture, etc. Et puis, fécondité. Et donc, on voit que effectivement, les conditions de la natalité aujourd'hui, souvent, s'appuient sur des techniques d'aide médicale à la procréation, FIV, etc. Et donc, dans cet ouvrage, il y a pas mal de chapitres qui parlent de ça. Un chapitre qui parle des conditions dans lesquelles les femmes sont remboursées quand elles ont accès à ces techniques médicalisées, l'âge légal, comment les pays s'adaptent, en fonction de considérations sur le coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut la peine, jusqu'à quel âge ça vaut la peine d'essayer d'aider les femmes à avoir des enfants, parce que ça coûte cher, s'il y a une chance forte de réussite, bon, ok, sinon non, mais ça dépend des pays, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est les chapitres finalement. Donc, le chapitre sur la GPA, qui est fantastique, en fait, le chapitre de Marie Trépeuge, qui a fait vraiment une enquête sur les couples, soit infertiles, hétérosexuels, soit homosexuels, qui ont recours à la gestation pour autrui. Donc, c'est un marché vraiment organisé avec des agences qui mettent en relation la donneuse d'ovocytes, la future mère porteuse, les parents d'intention. C'est contractualisé, il y a des assurances, c'est un marché complètement international, très intermédiaire, etc. Dans lesquels les parents d'intention entrent avec souvent des scrupules. En fait, ils se rendent compte qu'ils sont des clients alors qu'ils voulaient avoir un enfant. Alors, ils mettent des mots pour cacher tout ça. La rémunération de la mère porteuse au Canada, ça s'appelle compensation. On sent qu'il y a des problèmes. Alors, les problèmes, ils sont dus à la fois à l'aspect financier. On ne voudrait pas qu'on puisse acheter un enfant. Et l'autre problème, c'est l'instrumentalisation du corps de la femme. Et c'est deux problèmes séparés, en fait. Donc, les gens sont un peu mal à l'aise avec ça. Et les agences elles-mêmes font un tri au sein des parents entre ceux qui se comportent bien avec la mère porteuse et puis ceux qui vraiment ont l'air de la considérer comme un pur accessoire, en essayant d'éviter ce genre de parents. Et ce qu'on voit dans deux autres chapitres, enfin, dans un autre chapitre de Ren Yuho, consacré à la Chine, donc ce sont là des couples homosexuels, donc soit des couples lesbiennes ou homosexuels hommes, gays, je ne sais pas comment on dit à la radio.
Vous dites comme vous voulez.
Qui veulent avoir un enfant, mais évidemment, c'est interdit là-bas pour ce genre de couple. Donc, ils contournent la loi en se faisant semblant de se marier dans un couple hétérosexuel. Donc, c'est un mariage coopératif, ou alors carrément en épousant un homme, épouse une femme sans lui dire qu'il est homosexuel. Et puis ensuite, une fois qu'il a un enfant, il lui révèle que c'est le cas. Ça s'appelle un mariage de fraude. Il y en a énormément, il y en a des millions. Des hommes s'arrangent avec avoir recours à des mères porteuses. Et alors, tout ça, c'est très moderne. C'est la technologie, c'est la GPA, etc. C'est contractuel. C'est très moderne. Et ça se passe dans un cadre complètement traditionnel. En fait, où la société est matrilocale, ça veut dire que quand on a un enfant ou quand on se marie, on va habiter chez les parents de l'homme. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit matrilocale.
Oui, patrilocale. Patrilocale. Donc, chez les parents, enfin, en tout cas, c'est là. Ouais, voilà, patrilocale. Et donc, une femme, il y a plein de cas de mères lesbiennes qui font un enfant avec un homme pour pouvoir vivre leur vie amoureuse, leur orientation sexuelle librement. Mais une fois qu'elles ont l'enfant, elles se retrouvent dans la famille de leur mari, quasiment en une situation presque très, très contrainte, disons. Tandis que lui, il continue à vivre sa vie tranquillement. Et les grands-parents ont un rôle énorme. Il y a deux chapitres sur la Chine dans ce bouquin. Il y a celui de Ren Yuho, de Manon
Laurent.
C'est le
plus fascinant.
Les grands-parents ont plus d'importance dans l'éducation des petits-enfants que les parents. C'est vraiment une situation dynastique. Donc, c'est ce que je voulais insister là-dessus. C'est cette chose très moderne, très avant-gardiste, très technologique, qui sont injectées dans une structure complètement traditionnelle où, finalement, les grands-parents ont le pouvoir quasiment sur les mères. On voit une mère qui dit « Mais en fait, quand on a un enfant, la vie est finie. » Là-bas.
Donc, je ris parce que c'est aussi ce qu'on peut entendre parfois dire certains parents épuisés peu partout.
Mais là-bas,
Mais évidemment, ça ne recouvre absolument pas les mêmes réalités. Ce qu'on entend aussi à travers ces expériences qui sont très différentes à travers le monde, vous avez développé plusieurs exemples, Claudia Sénic, c'est un désir très fort d'enfants, même dans des sociétés où on en fait peu, quand on désire un enfant, quand on a ce projet-là, c'est très fort et c'est quelque chose qu'on veut pouvoir mener à bien. Ça fait changer aussi les normes, les règles, les lois, ce désir des parents.
Ah oui, tout à fait. En fait, les lois évoluent et deviennent de plus en plus libérales. Disons, en France, la GPA est encore interdite, mais la congélation d'ovocytes est autorisée depuis 2021. Les techniques de la FIV se pratiquent depuis longtemps, mais le public auquel ça s'adresse s'élargit. Donc, tout ça relève de plus en plus du désir. Donc, soit le non-désir, on ne veut pas d'enfants, on en veut moins, on n'en fait plus. Soit au contraire, j'en veux absolument et donc je vais avoir accès à des techniques pour m'y aider. Donc on voit que c'est ça aussi qu'on voit dans cet ouvrage, c'est la population qui fait de moins en moins d'enfants en général, qui vieillit parce que les gens vivent longtemps et ils font moins d'enfants. Donc, et puis d'un autre côté, des gens qui veulent à tout prix avoir des enfants, même si c'est compliqué dans leur situation familiale.
Alors, puisqu'on parle de la Chine et puisqu'on s'intéresse à l'éducation, on doit interroger les normes éducatives et parentales. L'exemple de la Chine est particulièrement puissant, puisqu'en Chine, l'État intervient beaucoup. On a par exemple interdit en Chine les cours particuliers. Ça a l'air de rien, mais il y avait vraiment des millions et des millions et peut-être des dizaines de millions de clients, jeunes clients et familles pour ces cours particuliers. Donc, au nom de l'égalité, on interdit aussi, ça fera rêver pas mal de parents qui nous écoutent, les jeux vidéo et le fait d'être trop d'heures en semaine sur les réseaux sociaux pour les jeunes. Donc, on a un État très directif. En France aussi, on va y revenir. En France aussi, il y a des normes parentales qui circulent. On a l'impression qu'elles sont moins fortes. On n'est pas forcément touché comme ça. Nous, on se sent peut-être plus libre. Enfin, nous, je ne sais pas à qui ça correspond du reste. Comment elles circulent, ces normes parentales? Je redis peut-être vos noms, Claudia, est-ce que je vous regarde comme ça?
Vous inquiétez pas. Sur les normes de parentalité, il y a une sociologue qui s'appelle Elsa Boulet qui a travaillé sur une notion de sanitarisation de la grossesse et qui est la manière dont les normes sanitaires pénètrent l'espace intime et donc le domicile des personnes quand les femmes sont enceintes. Et ces normes, elles sont extrêmement nombreuses. Il faut bien manger, se coucher tôt, avoir une activité physique. Pas trop grossir. Alors même que ça fait partie en effet des pathologies de la grossesse. Je veux dire, il y a des causes, et des fondements, de santé publique dans ces normes. Mais elles pénètrent l'ensemble de la société et donc on attend des femmes enceintes qu'elles soient parfaites. Donc ça participe aussi, je pense,
Donc les normes, ça commence avant la naissance.
Et ça peut même orienter aussi les prescriptions des sans-enfants, des personnes sans-enfants qui décident de ne pas faire d'enfants parce que justement ça demanderait un investissement tellement énorme que finalement on va pas faire d'enfants, mais que on va participer.
Mais pas seulement à cause de la grossesse, parce que toute l'éducation paraît une montagne trop haute à gravir.
Une charge absolument énorme qui va se jouer aussi selon les classes sociales, parce que le retour au travail des femmes, l'article d'Anne Lambert aussi dont on n'a pas encore parlé, mais peut-être vous vouliez en parler après.
C'est ça, ouais.
Claudia Seigny.
Elle va en parler, mais finissez. Oui.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le retour au travail des femmes, il est proportionnel à la classe sociale des femmes. Après un premier enfant, après un deuxième encore plus, après un troisième, il est absolument énorme. Et que quand les femmes retournent au travail, selon leur classe sociale, si elles ont la possibilité, parce qu'elles n'ont pas eu de place en crèche, d'accéder à une assistante maternelle ou de payer en fait une femme qui va garder leur enfant et du coup s'occuper du travail du care et du travail
de soins
du nouveau-né jusqu'à son entrée à l'école, forcément en fait ces inégalités sociales, elles vont se voir de manière très forte et ces normes, elles sont donc encore plus lourdes à porter pour les femmes des milieux populaires ou les femmes en situation de grande précarité qui pourtant essayent de performer ces normes sans jamais pouvoir y arriver.
Mais elles sont véhiculées, ces fameuses normes, je pense à la CAF, moi, parce qu'il y a des ateliers de parentalité qui sont proposés par la Caisse des allocations familiales.
Alors, je peux peut-être...
Par les médias.
Ma casquette de directrice de réseau de santé. Mais on a des normes de parentalité, par exemple, sur le portage des enfants. Il ne faut pas porter trop longtemps un enfant au dos. C'est vrai qu'on a eu des cas en Île-de-France de décès de nouveau-nés qui étaient liés au... j'utilise des guillemets, des gros guillemets, je le précise parce qu'on est à la radio, qui seraient liés au portage de ces enfants, mais des femmes qui ont un hébergement instable, qui ont jusqu'à, pour les femmes dont on peut s'occuper dans ce réseau, jusqu'à 40 hébergements pendant une grossesse. Donc ça veut dire une scolarité complètement aléatoire du reste de la fratrie dont elles sont la mère. Elles vont pas pouvoir... réussir à porter leur enfant de temps en temps. Il est toujours avec elles. Elles vont pas pouvoir s'alimenter correctement, pas pouvoir alimenter correctement leurs enfants. Elles choisissent pas ce qu'elles mangent. Elles se lèvent à 5h du matin pour essayer de faire qu'elles soient à peu près à l'heure pour déposer leurs enfants à l'école, mais elles vivent une semaine à 3 heures en transport en commun du lieu de scolarité de leur enfant. Donc ces normes, elles sont impossibles à porter. Et du coup, je refais un parallèle avec la question du réarmement démographique. Dans un contexte où on soutient pas les parentalités existantes, ça pose question. Et c'est
ça pose question. Et en vous écoutant, je me dis, finalement, ce sont les femmes favorisées qui interrogent le plus les normes de la parentalité. Il y a une production pléthorique d'écrits de femmes journalistes sur les normes parentales qui les interrogent. Certaines sont des amies. D'ailleurs, c'est, moi, je trouve très intéressant, mais peut-être parce que, voilà, je fais partie de la catégorie la plus concernée. Claudia Sénic, sur le recul de la natalité face à des normes et qui paraissent difficiles à tenir et face à des ambitions parentales qui finalement paraissent trop élevées.
Alors en France, dans les enquêtes conduites par l'INED, par exemple, l'Institut de démographie, les gens veulent, enfin il y a très peu de gens, oui, 5% des gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants, ils en veulent 2-3 en France. Ce qui est assez élevé, c'est même, encore une fois, le chiffre le plus élevé. Alors sur ces normes et cette... L'exemple de la Chine est très révélateur, pas forcément pour apprendre des choses sur la Chine, mais parce que c'est un peu une caricature de ce qu'on vit un peu partout. Donc, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en 2021, loi sur votre promotion sur l'éducation familiale. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est que maintenant, il faudrait déjà que les parents se remettent à faire des enfants. Parce qu'après la politique de l'enfant unique, finalement, la population chinoise vieillit très, très vite et ça va créer un très terrible déséquilibre pour la protection sociale. Enfin, on ne peut pas avoir une énorme masse de gens qui sont inactifs au sens où ils ne travaillent pas et dont les revenus pèsent sur les actifs. Bon, c'est un problème aussi pour la croissance. Donc, il faudrait qu'elles fassent des enfants. Donc, la politique de l'enfant unique, c'est fini depuis 2015. Maintenant, on a le droit d'avoir plusieurs enfants et même 3. On n'est pas obligé de prendre un moyen de contraception, ce qui était le cas avant. On n'est pas obligé d'attendre longtemps avant de faire le premier enfant, ce qui était le cas avant. Et il s'agit de faire des enfants de manière scientifique. Donc, d'apprendre comment on les éduque, il faut s'en occuper soi-même, il faut arrêter de les confier aux grands-parents parce qu'ils sont trop laxistes, surtout. Alors, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont travailler en ville ou dans les zones côtières et qui laissent les enfants avec les grands-parents à l'intérieur
de la région. C'est un grand problème de ce pays.
Voilà. Donc, à la fois, il faut éduquer les gens, il faut que les enfants aient une bonne éducation, etc. Mais en même temps, il faut que les parents aient envie d'en faire. Or, la concurrence scolaire est vraiment féroce en Chine, comme en Corée, comme un peu partout. Mais là-bas, particulièrement, on sait que dans ces pays, il y a des suicides d'enfants, même si le niveau PISA est très élevé. Ça se paye. Les parents.
Voilà, c'est une société du concours.
Le concours, donc on est sélectionné.
Il y a des concours.
On est sélectionné pour aller à l'école, le primaire, le collège, le lycée, plus qu'en France. Et à tel point que les parents déménagent pour suivre l'enfant quand il a été admis dans une certaine école. Ça s'appelle School Apartment. C'est Manon Laurent qui racontait ça dans une conférence. Et donc finalement, ça crée une terrible pression. Et donc avoir plus d'un enfant, c'est impossible parce que les parents sont tenus responsables explicitement par la loi de la réussite scolaire de leurs enfants. C'est quasiment leur réussite scolaire. Donc finalement, c'est un projet très très fatigant, très presque décourageant. Alors pour réduire ce niveau de découragement, pour réduire un peu la pression sur cette concurrence, c'est pour ça que le gouvernement chinois interdit les cours privés de matières qui sont enseignées à l'école. Vous vous rendez compte ? Donc avec des descentes dans les appartements pour voir s'il n'y a pas dans la cave caché des bouquins de maths que viendrait donner que viendra enseigner des profs privés. Donc, interdire les cours privés pour faire baisser la concurrence scolaire, parce que sinon, il n'y a pas de limite. Et interdire les jeux vidéo, par ailleurs, parce que ça rend un peu ça amollit le cerveau des enfants. Donc, je trouve qu'il y a un rapport entre cette... finalement, on parle de normes, et ce que doivent faire les parents, et s'occuper des enfants, et la concurrence scolaire étant devenue tellement forte, puisque maintenant, il y a une massification de l'enseignement et de l'éducation, même tertiaire. Ça peut être décourageant, encore une fois, et la Chine est un peu comme
Mais c'est comme une loupe. Ça nous
parle.
Une
loupe sur ce qui se passe.
À nous parlons français, peut-être. Au sujet de la France, je veux absolument qu'on écoute Romain Delesse. Alors, c'est un sociologue qui intervient dans ce livre sur la question du pessimisme parental. J'adore cette formule. Il interroge les spécificités françaises. Elles sont nombreuses. Elles sont à la fois des spécificités éducatives et des spécificités du partage des tâches.
Ce qu'on repère, c'est qu'en France, il y a des représentations de la parentalité qui sont parmi les plus pessimistes d'Europe. On mène l'enquête hein, sur des zones internationales, mais on pose la question aux individus. Est-ce que les enfants enlèvent de la liberté aux parents? Est-ce que les enfants sont une charge pour les parents? Est-ce que les enfants limitent les opportunités de carrière pour les parents? Donc quand on pose ces questions-là, on se rend compte que en France, c'est là, et dans quelques autres pays, mais en France en particulier, c'est là qu'on a les taux les plus élevés d'adhésion à ces phrases-là, autrement dit, les taux de pessimisme parental les plus élevés. Et au contraire, on se rend compte que d'autres pays, notamment les pays nordiques, présentent des taux extrêmement faibles. Donc on est vraiment sur des différences très fortes, puisque si on fait un indicateur un peu synthétique de toutes ces représentations négatives de la parentalité, on a à peu près 5% des parents suédois qui sont pessimistes, contre 40% en France.
Quelles sont les explications à Mendelès?
Si on regarde en termes de taux de fécondité, en vérité, c'est assez étonnant, c'est même assez paradoxal, puisqu'en France, on est parmi les champions d'Europe de la fécondité. Hein. Et les Suédois aussi sont très forts. Et pourtant, si on regarde en termes de représentation de la parentalité, là, il y a de très fortes différences entre ces pays. Donc, c'est peut-être pas la bonne explication, et peut-être qu'il faut aller voir plutôt du côté des arrangements de couple, comment ça se passe, en fait, dans le contexte familial, et en particulier dans les arrangements entre partenaires. Et donc, ce qu'on observe, c'est que en Suède et dans les pays nordiques en général, les arrangements de couple sont plutôt égalitaires. Et ils sont égalitaires dans deux dimensions, à la fois dans la sphère professionnelle, où on a des taux d'emploi des femmes qui sont très élevés, mais aussi dans la sphère domestique. Donc on a une forme d'égalité que je caractérise d'extensive, parce que la révolution de genre est allée jusqu'à l'implication des pères dans la sphère domestique. Or, en France, d'une certaine manière, l'égalité de genre s'est arrêtée un petit peu au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on a des taux d'accès au marché du travail des femmes qui sont très élevés, parmi les plus élevés d'Europe aussi. Par contre, les inégalités domestiques demeurent au travers des enquêtes qui étudient ça, les enquêtes emploi du temps des ménages, depuis 30 ans, nous montrent que ça progresse assez peu à la maison. Ça veut dire qu'en France, en gros, on est dans un pays qui est très marqué par ce qu'on peut appeler cette double journée féminine. Donc c'est ça qui occasionne des tensions au sein des arrangements de couple et qui potentiellement peut avoir un effet sur les représentations de la parentalité. Et donc effectivement, la différence entre ces pays, entre les pays nordiques, champions d'Europe du bonheur parental, et la France, c'est que les pays nordiques, ça fait 50 ans qu'ils ont commencé à organiser des arrangements de genre égalitaires, y compris dans la sphère domestique, notamment avec cette réforme emblématique du congé parental. Et le congé parental, en Suède, il est mis en place de manière égalitaire, neutre, partagée, à partir des années 1970. Mais ceci dit, par la réforme du congé parental, il y a eu une vraie valorisation sociale de la parentalité, ce qui fait que les hommes voient l'intérêt, de fait, l'incitation à rentrer dans la sphère domestique. Or, en France, il y a très peu de valorisation de la parentalité. La parentalité reste un peu aux marges, en tout cas au moins de la régulation politique, et puis en vérité, la parentalité n'est pas une activité sociale extrêmement valorisée en France. Ce qui fait que, du coup, elle reste un petit peu abandonnée aux arrangements traditionnels. C'est finalement les femmes qui le font par habitude, en fait, par tradition. Et donc, en France, on a quand même mis beaucoup l'accent sur le faire-faire, c'est-à-dire très tôt, les parents ne s'occupent plus des enfants, et en particulier, les pères n'ont quasiment pas de congé paternité. Comparé aux standards européens et des pays nordiques, évidemment, hein, on en est encore très très loin, même s'il y a eu des évolutions récentes positives. Globalement, donc, les pères sont absents dans les premiers moments de la petite enfance, et les mères, et c'est une spécificité française, au bout de 3 mois de congé maternité, retourne sur le marché du travail. Donc on n'a pas engagé les parents dans l'acte parental, et en particulier les pères dans l'acte parental. Or, ce qu'on sait, hein, c'est que les pays qui mettent en place des congés parentaux, et en particulier des congés parentaux partagés, ça a des conséquences sur l'enrôlement des pères dans la parentalité.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Et dans cet épisode, on se demande comment on fait les bébés, c'est-à-dire dans quelles conditions, des conditions très inégales, donc selon le sociologue Romain Delesse, avec un certain pessimisme qui entoure finalement la manière de conduire les premiers moments de l'éducation et toute la suite. Je vais pas redire tout ce qu'a dit Romain Delesse, et en même temps cette question de pessimisme m'interroge énormément. En même temps, on continue à faire beaucoup d'enfants en France, oui, même sans politique publique aussi forte que dans les pays scandinaves. Alors, comment vous l'expliquez?
D'abord, un petit point sur ce que vient de dire Romain Delesse, c'est que ce pessimisme, c'est-à-dire l'idée que les enfants, ça prend du temps, c'est une charge financière, ça empêche de vivre, etc., il est particulièrement élevé dans les pays comme la France, par rapport aux pays du Nord ou aux pays plus traditionnels. Mais c'est uniquement du côté des femmes, en fait, ce pessimisme.
Oui.
Parce que pour les hommes, en fait, c'est pas de problème.
Alors, c'est le pessimisme maternel.
Je voulais rajouter qu'il y a un article très récent dans le NBER de Claudia Goldin, qui est une économiste qui a reçu le prix Nobel très récemment, et qui, en comparant des données internationales, montre exactement la même chose, à savoir, dans des pays qui ont connu une croissance très rapide et qui ont donc changé complètement de mode de vie, de normes sociales, etc., où les femmes se sont mises à travailler et ça a bouleversé en fait les habitudes traditionnelles. Quand il reste des grosses différences justement d'emploi du temps, quand on voit que la différence, qu'il y a 3 heures d'écart dans le temps que passe la femme versus le mari pour les tâches ménagères aux enfants, quand il y a des grosses différences d'emploi du temps, c'est là que tout d'un coup la natalité chute, donc la Corée, la Chine, etc. Donc en fait cette vision idyllique un peu que des pays du Nord tels que le décrit Romain Delesse, où finalement on a fait ce qu'il appelle les deux révolutions de genre, à la fois les femmes travaillent, mais aussi à l'intérieur, dans la sphère domestique, on partage, c'est assez harmonieux, c'est assez égalitaire, et donc ça se passe bien, et donc du coup c'est sympa, et on a envie d'y aller, versus finalement ça va être la guerre dans le foyer, qui va s'occuper, toutes les tâches reposent sur les mères. Comme c'est elles qui décident de faire des enfants, finalement, oui, elles n'ont plus tellement envie. Et donc, la natalité chute un enfant et demi.
Donc, il faudrait valoriser la parentalité des pères, enfin la paternité.
Cette idée, en fait. On ne la voit pas vraiment dans les données, mais c'est comme ça qu'ils les interprètent. C'est-à-dire, finalement, il y a une ambiance de coopération, il y a une valorisation de la parentalité. C'est-à-dire que on est d'accord pour l'homme comme la femme arrêter de travailler pendant un certain temps assez long pour s'occuper des nouveau-nés tant qu'ils marchent pas, peut-être, tant qu'ils peuvent pas ramper au moins à quatre pattes. Et comme tout le monde le fait, il y a une question de coordination. En fait, les questions de coordination sont clés en fait dans la société. Si on s'occupe de ses enfants quand on est une femme des classes supérieures, donc, comme vous parlez, qu'on reste à la maison ou qu'on va chercher ses enfants à 4 heures, on est la seule dans son cas. On se demande ce qu'on est en train de faire et pendant ce temps-là, les autres sont en train de travailler. Si tout le monde fait ça, finalement, on se coordonne pour s'occuper des enfants, c'est valorisé, c'est tout à fait normal. Et même si on ne le fait pas, on est vu d'un mauvais œil, ça devient quelque chose d'agréable. Donc effectivement, il y a vraiment un problème de... C'est pas juste je décide de ce que je fais, allez, je prends mon congé paternité. Si tout le monde le fait, finalement, il n'y a pas de problème.
Mais en attendant, il y a plusieurs générations de femmes qui auront vécu ces doubles journées et qui, en France, ont quand même fait pas mal d'enfants parce que le travail est extrêmement valorisé et que pouvoir travailler malgré tout, c'est quand même aussi...
Mais on fait tout est organisé pour le faire. Oui. Mais ce qui est drôle, en fait, dans cet article, dans ce que disait Romain Delesse, qu'on entendait, c'est assez original, en fait, ce propos. Il a l'air de critiquer les modes de garde. Il a l'air de dire, voilà, dès qu'on peut, on met les enfants à la crèche, on s'en débarrasse, etc. Parce que lui, son idée, c'est que, c'est sympathique, c'est qu'on ne devrait pas vouloir se débarrasser des enfants. On devrait vouloir vivre la petite enfance avec eux.
Mais mettre un enfant à la crèche, c'est pas forcément s'en débarrasser, parce qu'on va pas remplacer une norme par une autre, qui serait celle de s'investir beaucoup.
C'est un peu ce qui est suggéré, quand même.
Plus, oui. Et est-ce que cette norme-là, c'est pas justement la montagne à gravir dont je parlais tout à l'heure, qui exige des parents de tout donner? Et surtout des mères, quand même, pour l'instant, en France, même si dans les pays scandinaves, mais ce sont aussi des pays peut-être plus riches, ça se passe mieux. Est-ce qu'on ne perdrait pas à échanger une norme pour une autre? Parce qu'après tout, on n'est pas des Suédois. Claudia Gasquet-Blanchard, que vous évoque en fait tout cet ensemble de réflexions.
Alors, ouais, moi, ce que ça m'évoque, c'est surtout qu'on a intégré l'idée qu'on fait des enfants dans une famille nucléaire et qu'il n'y a que le couple qui s'en occupe. Mais en fait, il y a des modèles de, d'allo-parentalité dans énormément de sociétés. Vous avez invité...
De famille monoparentale, on en parle souvent dans l'émission. Et c'est bien qu'on en parle maintenant, par exemple.
Oui, on peut en parler. Mais enfin, sur déjà ce que c'est que de rentrer en relation. Mmh. Vous avez invité Philippe Descola il n'y a pas longtemps.
Oui, hein, bien sûr.
De la relation, quand on
chez
rentre
les
en relation.
Donc en Amazonie, où l'éducation est tout à fait différente, très genrée aussi, mais où ce qui compte aussi, c'est d'avoir des relations dans son groupe, sa famille, entre les individus.
Et moi, le parallèle que je peux faire aussi avec ce qui se passe dans les maternités et ce que j'observe de soignants et soignantes au travail à s'occuper de femmes qui vont être enceintes et qui accouchent, c'est que l'hôpital, il fonctionne quand on a un collectif derrière qui permet qu'on soit au lit des patients, qu'on puisse être ensuite de couche avec une femme, qu'on valorise le travail du care, et que ce travail du care, évidemment, il est très dévalorisé dans une société néolibérale, parce que justement, ça impliquerait que, Fatima Wassak le dit très bien, hein, c'est pas sexy hein, d'avoir de la purée de courgettes sur son t-shirt, voilà, quand on rentre en réunion après.
Non, je sais pas. Mais, on est tous passés, enfin, tous qui ont des bébés, on sont passés par là.
On est toutes passées par là. Et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu ou, comme vous le disiez, quand on est, on est l'extraterrestre, quand on est à la sortie de l'école à 16h30.
Je précise juste que Fatima Wassak est une autrice très militante des quartiers populaires
qui écrit La puissance des mères.
Voilà, qui défend la place de la mère comme une condition aussi politique dans notre société.
Et cette condition politique des femmes, elle est très peu défendue et on le voit bien. Alors je reviens, je suis désolée, sur le chapitre d'Anne Lambert dans l'ouvrage que vous avez coordonné, mais elle dit qu'en effet, elle a travaillé sur les horaires décalés. L'entrée en parentalité avec des horaires décalés sur trois professions, hôtesse de l'air, femme de ménage, infirmière soignante. Donc que des métiers du care qui sont au service des plus privilégiés aussi, ou de ceux en tout cas pour les infirmières qui en ont besoin. Et le fait que ça soit pas une cause politique, ça nous dit bien finalement que c'est une population uberisée, hein, je cite David Graeber, au service de ces classes privilégiées.
Alors, David Graeber, on peut
préciser
que c'est un anthropologue américain qui a écrit sur les bullshit jobs.
Oui, et sur, c'est un penseur du néolibéralisme.
Voilà.
Et donc, ce que ça nous dit, le parallèle que je vois, moi, c'est qu'il y a quand même, dans la famille nucléaire, on a accepté l'idée que on gagnera la bataille de la répartition des tâches domestiques dans le couple entre hommes et femmes. Mais c'est au-delà d'une question de genre, c'est aussi cette question de l'alloparentalité et de relations beaucoup plus larges, alors qu'ils sont poussés à l'extrême en Chine, où on va dire aux parents comment ils doivent se comporter. Mais la sollicitation d'amis, de grand-mères, d'une transmission transgénération...
Une autre parentalité est possible, en tout cas peut-être... Voilà,
élargie,
socialisée différemment que par le contrôle. En fait, on se dit, à part ces pays scandinaves, c'est difficile de trouver des réponses politiques qui encouragent, dans une société, je pense, plus individualiste, parce que nous sommes des individus qui, politiquement, on est très marqués par ça. Nous sommes des individus de choix. Donc, nous dire, vous allez élever votre enfant avec toute une équipe de grand-mères, de belles-mères, de tantes et de voisins, ça correspond pas trop.
Ça existe, il y a quand même des cultures. Il y a beaucoup de
mais
gens.
Mais dans nos sociétés...
Les grands-parents jouent un rôle très, très important. Il y a plein d'études qui le montrent. Un rôle, pas seulement en termes de garde, mais de transmission, de valeurs. Je suis sûre que mes parents m'écoutent, alors j'ai intérêt à faire attention.
Les miens aussi, peut-être. Mais donc, est-ce qu'on pourrait inventer un discours politique qui valoriserait l'éducation collective ? Pas par le biais forcément de l'État, par des interventions de professionnels de l'éducation, mais l'idée qu'un enfant n'est pas seulement l'enfant de ses parents. En France, on avait inventé quelque chose avec l'école publique qui dit l'enfant, il devient un élève et c'est l'enfant de la République. Ah oui. Et je crois que ce discours est même toujours vivant. Mais entre les deux, est-ce que ce discours, il existe quelque part ? Est-ce qu'il est vivant, Claudia Sénic ? Parce qu'il faut qu'on l'étudie encore.
c'est étudié. Enfin, le rôle des grands-parents, le rôle des collectifs, l'importance à côté de l'école des associations culturelles, sportives et autres, dans lesquelles les gens, s'insèrent peut-être moins aujourd'hui parce qu'ils sont plus sur leur iPhone, qui était vraiment le cas. Enfin, l'acculturation se faisait en dehors de la famille, pas seulement dans l'école, mais dans tout ce qui était à côté.
On parlait d'éducation populaire la semaine dernière.
Exactement.
Dans cette
émission. Je pensais à ça, exactement. Donc, tout à fait. Enfin, les conservatoires, ce genre d'endroits, les sessions sportives. Ça, c'est encore organisé. Vous pensez à quelque chose d'informel. C'est dur de dire aux gens. Bah, en Chine, ils le font. Les parents sont obligés. Les écoles sont tenues d'avoir des cours pour les parents, pour apprendre aux parents à être de bons parents. Alors, j'imagine que là-bas, on pourrait leur dire vous devez aussi voir vos voisins une fois par semaine. Bon, je ne sais pas si ça va se faire ici.
Je ne pense pas, mais les cours pour les parents, c'est assez intéressant.
Les cours pour les parents, c'est une très bonne idée.
Ah, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est intéressant de lire cette information, de voir un peu comment ça se passe en Chine, où c'est par ailleurs assez critiqué.
De manière informelle, je pense que cette histoire de coordination, c'est quand même important. Enfin, il y a une co-autrice, une chercheuse qui est venue présenter un séminaire récemment à l'École d'économie de Paris. Elle est venue avec son bébé et son mari. Vraiment un bébé, vraiment, je ne sais pas, 2 mois. Et elle me demande, à Paris, où sont les endroits où on peut aller en famille pour voir d'autres familles avec des enfants? Et je lui dis, mais j'en sais absolument rien. Je suppose qu'il y en a, il y en a peut-être un ou deux, mais il n'y a pas dans chaque quartier un endroit où toutes les familles.
Non, c'est les maisons vertes de Françoise Dolto, par exemple.
Oui, mais pas un truc de pédopsychiatre.
Hein, non, c'est les maisons vertes, c'est un endroit où on peut aller comme ça avec son bébé.
Voilà, donc elle était certaine que, à 100 mètres, j'allais lui dire, là, tu tournes à droite et puis tu vas voir.
Il faut au moins prendre le métro.
Voilà, donc c'est ça. Mais c'est parce que les gens sont là, ont du temps pour le faire, et donc évidemment ça s'organise.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de dire ça au moment où de plus en plus d'endroits s'annoncent comme child-free et sans enfant garanti, sans enfant pour la tranquillité de ceux qui les fréquentent. Et ça en dit long. Alors, les enfants sont aussi des êtres de droit, et c'est un chapitre qui m'a beaucoup intéressée dans le livre, et je voulais qu'on en parle toutes les trois, si vous voulez bien. Donc, le droit des enfants, c'est celui d'être protégé. Éduquer, c'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, mais c'est aussi un droit dynamique, un droit à s'exprimer, par exemple. Et c'est un article passionnant donc de la philosophe Linda Godemar.
L'objectif de mon travail, c'est aussi de porter attention aux droits actifs, à la protection de ces droits actifs, notamment le droit à être entendu, qui peut aussi avoir un effet bénéfique concernant sa protection. Et dans le cadre de ce travail, j'essaie de montrer que l'enfant a une autonomie, un discernement propre, et qu'on a tort de comparer constamment cette autonomie à celle de l'adulte.
Qu'est-ce qui, selon vous, pose problème aux parents? Quelles sont les difficultés à reconnaître l'opinion, tout simplement, et à écouter les enfants?
Merci pour cette question. Effectivement, je pense que la principale difficulté, c'est qu'il existe un présupposé très présent, qui nous vient d'ailleurs de la philosophie, qui est de dire que l'enfant est un adulte incomplet, que l'enfant n'est pas capable de rationalité. On a tendance à associer l'autonomie des enfants au fait de pouvoir agir raisonnablement. Ce présupposé est très présent, et même dans la façon dont est envisagée l'autorité parentale, si on regarde l'histoire de l'autorité parentale, qui avant était autorité paternelle, l'autorité paternelle du père était envisagée comme un titre de propriété sur l'enfant. Et je pense que c'est encore très présent. D'une part, d'autre part, il y a cette idée que l'enfant est vulnérable, qu'il faut le protéger, et que donc le protéger, ça consiste à prendre la parole à sa place. Simplement, en réalité, on confond, là encore une fois, à mon avis, la responsabilité qu'aurait un enfant face à ses actes avec la capacité qu'il a et le droit qu'il a depuis 1924 à s'exprimer au sujet de ses envies, de sa vie, de ses goûts et de son quotidien, en fait. Ce n'est pas parce qu'un enfant de 8 ans est entendu au sujet de son quotidien à la maison qu'on va le rendre pénalement responsable de ses actes. Donc je pense qu'il y a une histoire, c'est pour ça qu'on ne peut pas étudier les droits de l'enfant indépendamment de l'histoire de l'autorité parentale, il y a une histoire d'autorité parentale conçue comme titre de propriété, et puis il y a une histoire aussi de présupposé qui est très 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 présent dans la justice, également, donc au sein de l'État, qui est de dire qu'un enfant n'a pas de discernement. Et à mon avis, le cœur du problème, c'est la notion de discernement, la notion d'autonomie qu'il faut à tout prix, à mon sens, adapter à l'enfant.
Comment ça pourrait se traduire dans la vie quotidienne?
Je pense que dès la petite enfance, on peut habituer l'enfant à avoir le droit de donner son opinion. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va suivre l'opinion de l'enfant. C'est très différent de dire que l'enfant a le droit d'être entendu et il a le droit de décider. Ce sont deux choses différentes. Donc il faut adapter évidemment le discours à son âge, mais dès la petite enfance, dans son entrée à l'école, au sujet de la personne qui va par exemple le garder avant qu'il entre à l'école, je crois que l'enfant, petit à petit, peut être intégré aux décisions qui le concernent. Et à mon avis, je pense que l'autonomie, c'est aussi développer son autonomie, c'est aussi lui faire comprendre pourquoi ses croyances sur un sujet quelconque peuvent avoir aussi des conséquences qui ne sont pas dans son intérêt. Je crois que c'est important aussi d'être, aux parents, il ne faut pas avoir peur d'être en désaccord et en aucun cas dire non à son enfant, c'est nuire à son autonomie. Au contraire, l'enfant va comprendre pourquoi manger des bonbons tous les jours, ce n'est pas dans son intérêt, même s'il a le droit de dire « j'aimerais manger des bonbons ». Donc, j'essaie de prendre un exemple simplement du quotidien, mais ça se fait aussi par l'intermédiaire de l'école. Je pense que l'école a un rôle relais clé à jouer, non seulement pour informer l'enfant de ses droits dès le plus jeune âge, et effectivement faire aussi de la prévention peut-être auprès des parents, de la communication. Et je pense que c'est renouer le dialogue, à mon avis, entre les familles, l'État, l'école, qui peut aussi jouer un rôle fondamental.
Comment on fait des bébés dans cet épisode d'Être et Savoir et comment donc on éduque des sujets de droit à qui on doit reconnaître écoute, parole et opinion personnelle, même au plus jeune âge. En fait, c'est extrêmement compliqué, pour preuve les débats éducatifs entre l'éducation dite positive et puis des points de vue peut-être plus fermes, où on ferait des time-out, et je rentre pas exactement dans le détail. C'est drôle d'avoir mis ça dans le livre, Claudia Sénic, enfantée aujourd'hui.
Bon, d'abord, moi j'aime bien, quand je choisis les 12 lauréats de la Fondation pour l'année en cours et qui vont constituer l'ouvrage, j'aime bien mélanger un peu les différentes disciplines, et donc des sociologues, des économistes, des historiens, des philosophes, si possible des historiens d'art, des théoriciens de la littérature, etc. Et je trouvais ça très intéressant, en fait, cette idée des droits de l'enfant. Là encore, les parents vont devoir respecter éventuellement certains nouveaux droits. Alors elle plaide surtout pour qu'on écoute les enfants, en fait. Finalement, à la fin, ça se concrétise dans cette préconisation. Mais elle voudrait qu'on introduise ça carrément dans la loi, ce qui veut dire que l'État, là, interviendrait dans
les familles. Mais ça fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant, sans vous couper. C'est quand même un texte
par la France. Protection, non-discrimination, intérêt supérieur de l'enfant, participation de l'enfant. Mais après, comment ça se décline concrètement, elle est assez critique et elle en demande davantage. Et quand on est, enfin, je pense que c'est surtout en termes de droit à la parole, au moins pouvoir s'exprimer. Mais là encore, effectivement, ça veut dire qu'au moment de décider en amont, avant d'avoir des enfants, on sait que désormais, il va y avoir cette contrainte-là, cette obligation, ce cadre.
Ce cadre.
Donc, c'est plus mes enfants, je fais ce que je veux avec mes enfants. Non, t'as pas le droit de faire. Enfin, voilà, ça devient beaucoup plus normé.
Claudia...
Peut-être limité, disons-le. Tant mieux.
Merci, Claudia Sénic. Et Clélia Gasquet-Blanchard, sur l'enfant, sujet de droit et les conditions de la parentalité, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui?
Alors. Je reprends ma casquette de directrice de réseau de santé. Il y a une enquête du SAMU social en 2023, Grandir sans chez soi, qui nous référence 25 000 mineurs, dont 9 000 enfants de moins de 3 ans qui grandissent dans des hôtels sociaux. La dernière nuit de la solidarité en 2025 à Paris a recensé 90 enfants qui dormaient dehors. Donc j'aurais tendance à dire que, et c'est marqué hein, dans le code de l'action sociale et des familles, un enfant à la rue doit être hébergé. Donc là on est dans une, et quel que soit hein, le niveau de l'État, qu'il soit central, régional, départemental.
Donc on parle de réarmement démographique, mais...
Il faudrait peut-être qu'on les héberge, qu'on leur donne un logement et qu'ils aient pour ça, parce que du logement va dépendre derrière le fait d'avoir des parents qui vivent décemment, qui puissent... s'occuper d'enfants qui vont grandir entourés d'adultes qui psychiquement ne vont pas trop mal et qui vont être disponibles pour les accompagner à grandir correctement.
Est-ce qu'on fait des écarts trop forts, trop grands entre des idéaux tels que je les ai décrits, enfin j'espère que c'est pas seulement un idéal, sur la manière de considérer l'enfance et puis sur les conditions matérielles des parents les plus démunis? Est-ce que c'est bizarre de mettre tout ça dans les mêmes questionnements ou pas?
Non, parce que quelque part, il y a à nous interroger aussi en tant que classe privilégiée, je m'inclus hein, dedans, à comment on peut aussi accompagner des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité.
Vous pensez que c'est des classes privilégiées que d'avoir accès à une éducation publique de qualité? Enfin, qu'est-ce qu'on trouve privilégié aujourd'hui quand on a des enfants? Est-ce que c'est pas ce qui est normal en fait?
Non, c'est une normalité d'avoir accès à une éducation publique de qualité, une maternité
avoir
publique.
Du temps pour ses enfants. De qualité, enfin, est-ce qu'on commence pas à considérer comme privilégié le fait, je sais pas, même, on en parlait au début, d'accoucher dans des bonnes conditions, d'avoir...
Non, c'est en effet, dans un pays comme la France, normalement, ça devrait être une évidence démocratique et avec un accès aux soins universels pour toutes et tous, ce qui n'est actuellement pas le cas.
Pour sortir de la sphère matérielle, juste un tout petit point, il y a une étude longitudinale qui suit les enfants depuis la naissance, une étude anglaise. Non, c'est une étude anglaise, c'est dans le SPAC. Et c'était un résultat. Ce qui explique vraiment bien la réussite future des enfants, leur intégration, leur diplôme, etc. C'est la santé mentale de la mère, en fait. Voilà.
Première cause de mortalité maternelle aujourd'hui,
le suicide. Je crois qu'on va refaire une émission sur la santé mentale, non pas des ados, c'est toujours très intéressant, mais des parents. Merci à toutes les deux. Enfanté, natalité, démographie et politique publique, c'est publié à La Découverte. Clélia Gasquet-Blanchard, Faire naître, ça apparaîtra à La Fabrique. Et puis, je voulais vous parler d'un très intéressant rapport. J'adore ce titre. Jeunesse, le droit au bonheur, publié par la Fédération Léo Lagrange. On parlait d'éducation populaire, je vous le disais, le 28 avril. Il faut absolument podcaster notre émission sur le sujet.